Radio Kawa présente émission spéciale.
Attention, cette émission très spéciale est fabriquée spécialement pour vous dans un contexte de spécialité pure.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale produite par Radio Kawa dans le cadre de la première édition du festival Geek & Game à Paris. Dans cette hybride entre émission et table ronde, nous allons parler des formations liées aux jeux vidéo, de l'enseignement du jeu vidéo. Au rang des présentations, ben voilà, je m'appelle Yann Rieder alias Inks et j'ai la joie de recevoir avec moi quatre invités. On va commencer par le canapé à votre gauche. Bonjour Guylain Delmas, tu es maître de conférence à l'Université Paris 8 et tu es également chercheur et enseignant spécialisé en conception et programmation de jeux vidéo.
Bonjour.
Avec nous également Edwige Lelièvre, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'UVSQ. Tu fais à la fois de la recherche et de l'enseignement, notamment autour des game studies et de la valorisation du patrimoine à travers les arts numériques. Bonjour Edwige.
Bonjour à tous.
À ma gauche, à votre droite maintenant, Antonin Congy, consultant en game design et game studies à LizArt Digital, doctorant contractuel à Bordeaux-Montaigne, et tu as été game designer chez Asobo et chez Keops Studio. Bonjour Antonin.
Bonjour, bonjour.
Et enfin, tout à droite, nous avons Mélissa Klaus, game designer et Scrum Master. On va peut-être nous expliquer ce que c'est que Scrum Master d'ailleurs, parce que là le terme est un petit peu rock'n'roll. Chez Osé et Games, tu es également coordinatrice de la section Game du SAE Institute à Genève et tu y donnes quelques cours en game design. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors n'oubliez pas, vous toutes et tous dans le public, que vous pourrez poser vos questions à la fin de l'émission grâce au micro sans fil que nous avons à disposition, en fonction évidemment du temps que nous aurons à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à noter sur du papier ou votre téléphone la moindre interrogation qui vous trotterait dans la tête au cours de cette table ronde. Voilà, donc on va commencer par une question assez générale. Je me tourne vers Guylain, puisque tu t'es porté candidat volontaire, même si on t'a un petit peu forcé, à propos d'un espèce de petit panorama, si tu peux nous le faire, des différents types de formations existantes en France, des différentes catégories, juste pour qu'on ait une certaine idée de ce qui existe, en fait, des différents domaines, des différents types.
Alors, effectivement, je ne vais pas faire le tour de toutes les formations qui existent, parce qu'il y en a beaucoup trop, et que de toute manière, il y a des listes très bien comme ça sur Internet, notamment sur le site de l'Association française de jeux vidéo. Par contre, pour situer un petit peu les différentes grandes catégories, en termes d'enseignement supérieur, parce que ce sont des formations post-bac en général, on a d'un côté les écoles spécialisées, avec beaucoup d'écoles qui prennent les étudiants dès la sortie du bac et qui les accompagnent jusqu'à un niveau master. Et donc, notamment, on va trouver Isart Digital, on va trouver iArtSup, SupInfo Games, beaucoup d'autres, et je ne pourrais pas faire toute la liste d'un seul coup, ce n'est pas possible pour moi. On y trouvera aussi dans ces écoles d'autres qui prennent des étudiants en cours de formation, donc ont déjà 2 ou 3 ans de formation derrière elles, et qui les accompagnent aussi en équivalent bac plus 5. Notamment, c'est le cas de l'Engmin, qui est aussi l'école publique dans le domaine, contrairement aux autres qui ont tendance à être surtout des écoles privées. Et puis, à côté de ça, il y a des formations universitaires, notamment plusieurs masters. Il y en a un à l'Université Paris 8, un master en arts et technologies de l'image qui est en partie spécialisé jeux vidéo. Il y en a aussi à l'Université Paul Valéry à Montpellier. Il y en a à Sophia Antipolis à Nice. Et puis, quelques licences professionnelles, notamment à l'IUT de Bobigny, dans celles qui sont proches de la région parisienne, ou encore une fois, du côté de l'Université Paul Valéry.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Guylain, justement, en termes de centralisation, tu dirais qu'il y a de grands pôles, particulièrement vraiment de manière extrêmement géographique, ou est-ce que c'est très diffus?
Dans l'absolu, il y a quand même une très grosse concentration d'écoles en Île-de-France.
Quelle surprise !
Les initiatives hors Île-de-France sont rares, donc il y a effectivement Nice et Montpellier. Mm-hmm. L'Engmin a la particularité d'être située à Angoulême parce qu'elle est associée au Centre national de la bande dessinée et de l'image.
Donc aux artistes.
Voilà, donc aux artistes, forcément. Mais ça reste quand même une école qui est gérée par le CNAM de Paris. Et sinon, effectivement, beaucoup de choses qui se passent directement dans Paris, parce que on sait aussi que c'est là qu'il y a un gros vivier d'étudiants qui vont être intéressés et des débouchés en termes de studios pour embaucher des stagiaires et de futurs game designers ou développeurs.
Je rajouterais qu'il y en a aussi quelques-unes, enfin pas mal dans le nord de la France, autour de Lille, où il y a pas mal de formations dédiées. Bon, après, sinon, il y en a un peu éparpillé partout.
Très bien.
Je ferai aussi de l'appui pour un concurrent, quand même.
Oui, vas-y.
Notamment sur SupInfo Games, qui est à Valenciennes, qui est l'une des écoles aussi, quand même, importantes, je pense, à citer.
Très bien. Question à Edwige et à Guylain, ensuite on passera à vous, c'est incessamment sous peu, je sais que la division de la parole est assez cruelle, mais vous êtes tous les deux, Edwige et Guylain, maîtres de conférences. Pour les spectateurs qui sont ici, les auditeurs qui l'ignoreraient, parce que le monde universitaire n'est pas forcément universel, en quoi est-ce que ça consiste d'être maître de conférences ?
Alors ça fait très chic comme titre, oui. J'aime beaucoup, hein. Mais alors en fait ça veut juste dire qu'on est enseignant-chercheur titulaire, donc on fait une partie de notre service en enseignement et la moitié du temps théoriquement on fait de la recherche. En réalité, comme la plupart des boulots, on fait beaucoup d'administratifs, un petit peu d'enseignement et encore un petit peu de recherche derrière quand on a un peu le temps, voilà.
Alors, on aura l'occasion de le voir plus tard. Pour toi, Guylain, c'est beaucoup plus de la recherche dans un domaine plus technique. Tandis que pour toi, Edwige, c'est beaucoup plus l'aspect culturel qui transpire du jeu vidéo, finalement. Mais on y reviendra plus tard, je pense. Il y aura l'occasion de répondre sur ces points-là. Mélissa, est-ce que tu penses, et là, je vais poser une question qui est assez générale, là encore, en ce qui concerne l'enseignement, est-ce que tu penses que, d'une manière ou d'une autre, tu pourrais exercer le métier qui est le tien, game designer, voilà, en passant uniquement par la case autodidacte et en guillemets, évitant les différents organismes, les différentes écoles qui viennent d'être citées. Est-ce que tu penses que c'est une voie qui est possible ?
Bon, déjà, premièrement, on oublie souvent qu'avec Internet, on a accès à une quantité de connaissances absolument énorme.
La seule chose qui manque, c'est la motivation.
Et voilà, donc on peut atteindre plus ou moins un niveau quasi professionnel, que ce soit pour le game design ou bien pour d'autres métiers relatif au digital assez facilement. Je pense qu'on peut tous apprendre les bases. Si on cherche, qu'on est motivé et puis qu'on est capable de travailler de façon autonome, je ne pense pas que ce soit un problème. Après, là où je pense que les formations elles sont absolument indispensables, ce sera surtout pour l'aspect pratique, en fait, la mise en pratique du game design. En apprenant seul, il y aura forcément des lacunes relatives à ce manque de pratique, parce que dans les écoles, et je pense que c'est le cas un petit peu pour toutes les écoles de ce domaine-là, il y a vraiment une mise en avant des workshops et du travail de groupe pour apprendre à être capable de travailler en groupe. Et ça, c'est vraiment super important. Qu'on soit tout seul dans son coin, à apprendre toutes les bases du GD, à faire toutes les analyses possibles et inimaginables sur YouTube, c'est une chose. Alors c'est super, on a toute la théorie, mais après être capable de pondre un game design qui va correspondre à des contraintes techniques artistiques, aux contraintes techniques du programmeur, aux contraintes du chef de projet, les contraintes que l'école aurait par exemple données pour correspondre un petit peu à des contraintes similaires à celles d'un éditeur, etc. Ça, c'est vraiment important. Travailler sous deadline, être capable d'estimer le temps de travail qu'on va devoir fournir pour donner tel et tel, je sais pas moi, game design document ou qu'importe. Voilà, ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment la base. Et sans cet aspect pratique, je ne pense pas que ce soit possible. Après, on peut tout à fait passer outre les écoles. Par exemple, en participant à des game jams, je pense que c'est une bonne alternative pour être capable de travailler sous contrainte et de prendre ces contraintes pour les transformer en créativité. Parce que finalement, en fait, la contrainte, s'il y a bien une chose à laquelle elle sert, c'est à générer de la créativité. Mais dans tous les cas, cet aspect-là est primordial. Après, pour ce qui est de la connaissance pure, je pense qu'aussi c'est important finalement d'avoir un cadre. Et ces écoles-là, elles permettent d'avoir un cadre, de savoir par où on commence, quelles sont les bases, quelles sont les choses ensuite qui viennent layer par layer s'ajouter aux connaissances primaires en fait, et que ce soit pour le game design ou pour notre formation, d'autres connaissances quoi.
Et pour pouvoir rentrer dans une entreprise, avoir le diplôme, ça aide beaucoup plus qu'avoir que dire j'ai fait mon jeu dans mon coin.
Alors, je pense pas que ce soit vraiment utile de dire voilà j'ai fait telle ou telle école. Après forcément, il y aura forcément des gens qui vont dire ah il a fait Isart, ah il a fait Arias, ah il a fait Superfogame, je connais telle personne.
Je connais son niveau
là-bas.
Du coup.
Voilà, je peux avoir à peu près une idée globale de ce que ça va donner. Mais ce qui va vraiment primer, ce sera les travaux pratiques qui seront mis en avant sur un portfolio ou ce genre de travaux en fait, qui vont démontrer que l'étudiant il est capable de travailler bien ou de travailler seul. Après, il ne faut pas oublier que quand on sort d'une école, que ce soit des entreprises ou autres, ils n'attendent pas à ce qu'on ait un niveau supérieur ou un super bon niveau. Ce qu'ils attendent en fait, d'un étudiant, c'est ce qu'il est, le potentiel en fait, qu'il a de devenir quelque chose qui peut correspondre à leurs besoins. On n'embauche pas un étudiant pour ce qu'il sait faire, mais pour ce qu'il pourrait devenir par la suite. Donc du coup, voilà, ces travaux, c'est vraiment super important, ouais, effectivement.
On va changer un petit peu de roue, on va changer de bicyclette, on va changer un petit peu de thématique, mais vraiment parce que ces questions à la fois d'enseignement et de recherche sont assez liées. J'aimerais poser la question à Antonin pour commencer, simplement parce que voilà, il n'y a pas encore de question qui s'est dirigée vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les Game Studies ? En quelques mots, je sais que c'est un vaste domaine et que c'est forcément cruel de te demander de l'expliquer en 3 ou 4 phrases. C'est terrible, mais pour qu'on ait une idée.
Oui, effectivement, en quelques phrases, ça va être compliqué. D'autant plus que moi, j'ai eu une approche, on va dire, assez empirique de l'étude du domaine en question, parce que je suis venu par la pratique et en fait, je suis arrivé finalement à me poser des questions sur quelle était la nature de l'activité ludique pour essayer de répondre en fait à des formes de questions introspectives. C'est pourquoi
je fais ce métier.
Oui, et puis pourquoi je joue et pourquoi j'aime jouer. Pourquoi est-ce que j'ai des souvenirs qui remontent à mon enfance, qui ont été traumatisés par mes parties de Burger Time sur une télévision ou de Pitfall sur Atari 2600. Pourquoi est-ce que je garde ces souvenirs-là qui sont profondément ancrés dans mon cerveau alors que mes parties de Chat-Perché, par exemple, je les ai un peu oubliées. Donc voilà, les Game Studies sont là effectivement avant tout pour interroger la nature du jeu, pour répondre à la question fondamentale qui est qu'est-ce que le jeu ? Qu'est-ce que l'activité ludique ? Avec, alors pour faire simple, un problème, je dirais, aussi lié à l'étymologie et au vocabulaire auquel on est confronté avec le français, c'est-à-dire que le terme jeu est très polysémique en français, qu'il recouvre à la fois ce qu'on pourrait appeler d'un côté le game, à savoir le système de jeu, les outils, les objets, les instruments du jeu, et de l'autre côté le play, à savoir l'activité en elle-même, l'action de jouer et la façon de jouer. Et les Game Studies sont là pour essayer d'étudier un petit peu tout ça, avec, pour faire simple, de manière très caricaturale, deux grands courants, on dirait un courant gémo-centré, qui est, on peut dire, représenté notamment par un certain Jesper Juhl, qui est donc la recherche plutôt anglo-saxonne, qui étudie le jeu comme étant un objet défini par ses règles, par son système. Et de l'autre côté, une école plutôt orientée, on va dire, play, c'est-à-dire plutôt orientée vers le joueur, vers l'action, le fait que le joueur intervienne dans ce processus-là. Et c'est ce qu'on retrouve notamment dans les écrits presque canoniques de Roger Caillois ou de Jacques Henriot, qui, eux, ont beaucoup réfléchi sur la place du jouant, du jouet dans l'activité jeu. Voilà. Les Game Studies, c'est un petit peu tout ça. C'est essayer d'étudier, finalement, quelle est la véritable nature à la fois de l'activité et à la fois de ce que peut être le jeu en tant qu'objet, si on peut arriver à le définir en tant que tel.
Mais bon. Des recherches qui peuvent ensuite être réutilisées, notamment pour enseigner, j'imagine, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir indiquer aux gens, maintenant qu'on sait comment les gens jouent, comment les gens interagissent avec l'objet jeu vidéo, on en apprend plus pour pouvoir mieux construire du jeu vidéo. J'imagine que ça a cette espèce d'effet retour de boucle, finalement, entre la connaissance créée et la connaissance retransmise.
Je dirais que c'est la question fondamentale. Donc, quand on apprend le game design, c'est vrai qu'on est un game designer, il va avoir la tête dans le guidon, dans le cambouis des mécaniques. Il y a un côté presque garagiste chez le game designer. Et il faut parfois, effectivement, être capable de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, par rapport aux recettes de cuisine qu'on va apprendre, pour essayer de s'interroger, de comprendre finalement quelle est la nature réelle de l'activité ludique et comment arriver finalement à la déclencher. C'est-à-dire que le game designer, lui, il a un rôle fondamental qui n'est pas d'écrire des règles, créer des systèmes de jeu, tout le monde peut le faire. On peut écrire n'importe quoi comme règle du jeu. Après, ce qui est important, c'est d'arriver à déclencher l'attitude ludique. Donc comment arriver à tendre les perches au joueur pour arriver à le motiver dans son passage à l'acte et arriver à faire en sorte qu'il puisse avoir envie de jouer, déclencher ce qu'on appelle le vouloir-faire du joueur. Et là, il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser et qui vont prendre du recul, simplement voilà, réciter ou recycler des recettes de cuisine, du game design, ou simplement essayer de faire les jeux qu'on aime parce que on a des genres de prédilection, ce genre de choses. Ouais. C'est de prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour être plus innovant et essayer d'arriver réellement à motiver, je dirais, voilà, le saint graal du game designer, à savoir l'attitude ludique, ce qui me fait dire, ce que je dis souvent à mes étudiants, finalement, ils doivent plus se considérer comme des play designers que comme des game designers, à vrai dire. Voilà.
Alors, Edwige, je vais te poser la question en ce qui concerne les Game Studies. Est-ce qu'il faut un effort particulier pour que les Game Studies arrivent, progressent, prennent de la place dans l'enseignement supérieur, ou est-ce que c'est assez naturel? Est-ce que c'est une demande qui vient des facultés, qui vient des directions, qui vient des gens qui gèrent le budget?
Ouais, alors non, ça n'arrive jamais que ça vienne d'en haut. Hein. Ça vient toujours des chercheurs, généralement des étudiants qui font un master et après ils font des thèses et du coup après ça s'inscrit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc les game studies, effectivement, on peut aussi parler des play studies, mais c'est pas tout à fait exhaustif. Ça s'inscrit dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que pour étudier les jeux, qui sont quand même des objets assez complexes, à l'intersection entre l'art, l'informatique, même l'histoire, la robotique, enfin, il y a vraiment un certain nombre de disciplines universitaires traditionnelles qui peuvent être impliquées, même les maths, hein, même la littérature, il y a des chercheurs en littérature qui étudient les jeux. Et donc, on est dans un contexte où, à la fac, les disciplines de recherche sont segmentées, et les game studies, d'une certaine manière, en France, en fait, ne correspondent pas à une discipline. Donc on a des chercheurs avec des approches différentes en fonction de leur background qui vont étudier les jeux. Ce qui fait que ça n'existe pas en France en tant que tel, en tant que game studies. Et donc ça, c'est toujours compliqué, hein, quand on est dans différents laboratoires, de dire, OK, moi j'ai cette approche et mon objet de recherche, ce sont les jeux. Et donc c'est en ça qu'on fait les game studies en fac.
C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de domaines académiquement nouveaux comme les gender studies, pour le coup, qui sont à peu près dans la même situation entre les différentes facultés, entre les différentes les différents domaines finalement, et qui se retrouvent à devoir partager les temps.
Alors c'est pas uniquement lié à des disciplines nouvelles, hein, y en a d'autres comme la biochimie, qui est pas du tout quelque chose de particulièrement récent comme discipline universitaire.
C'est peu après l'alchimie ils ont commencé.
C'est ça, à avoir le même genre de situation, à avoir un pied dans la bio en présent la chimie, puis alors du coup c'est assez compliqué pour eux de se faire reconnaître. Je dirais qu'en game studies c'est un petit peu différent, puisque pour le coup là c'est vraiment beaucoup plus de disciplines qui existent, c'est pas juste deux, et du coup c'est un petit peu moins une guerre de clochers.
Guylain, une réaction?
Oui, et du coup pour compléter ce que dit Edwige, c'est une double méthode de découpage en fait, qui se fait entre d'un côté un découpage par objet de recherche, à savoir qu'est-ce que l'on va étudier. Et dans le cas des Game Studies, ce qu'on va étudier, c'est le jeu vidéo ou le jeu de manière plus générale. Et le découpage français, qui est lui le découpage par discipline, qui correspond plus à l'approche, à la méthodologie et au background scientifique et technique que l'on va avoir. Donc par exemple, je suis informaticien de formation, je fais de la recherche en informatique, je m'intéresse aux jeux vidéo comme objet de recherche et forcément je vais l'étudier sous l'aspect des mécaniques informatiques et des outils informatiques que l'on peut apporter aux jeux vidéo. Je vais donc croiser forcément des gens qui vont s'intéresser aux aspects plus ludiques ou aux aspects narratifs ou aux aspects culturels et aux représentations. Et effectivement, la France a fait le choix d'un découpage par discipline, alors que d'autres systèmes, eux, sont beaucoup plus dans des découpages par objet de recherche qui apportent des croisements différents.
Très bien, très bien. Edwige, juste pour un dernier mot sur les Game Studies, je crois que tu as des exemples de publications dans ce cadre, tu as des ouvrages sur toi.
Oui, j'ai ramené un petit peu de littérature. Donc, en général, Autonin en a parlé, le premier livre dont on parle aux étudiants sur les jeux, c'est Les Jeux et les Hommes de Roger Caillois, un grand, grand classique. C'est très facile à lire en plus, donc c'est très bien pour commencer. Dans les ouvrages francophones, hein, que j'aime beaucoup aussi, qui est peut-être beaucoup moins connu, mais qui le mérite d'être plus connu que ça, c'est Olivier Cara, Le jeu de rôle, les forges de la fiction. Je sais ici qu'il n'y a pas que des joueurs de jeux vidéo, j'en ai vu dehors qui jouent au jeu de rôle, donc c'est pour eux. C'est un livre qui est très cool, parce qu'en plus, c'est un livre dont vous êtes le héros, même si c'est un livre de recherche. Suivant que vous êtes chercheur ou pas, que vous connaissez les jeux de rôle ou pas, en fait, vous ne lisez pas le livre de la même façon, donc c'est assez cool. Après, il y a énormément d'ouvrages qui vont être des ouvrages anglophones. Évidemment, on va lire aussi beaucoup d'articles, hein, suivant nos spécialités. Un que je trouve très facile à lire et très accessible, avec beaucoup d'exemples de jeux intéressants, même si après c'est américain, donc un petit peu prophétique, c'est Reality is Broken de Jane McGonigal, qui est très facile à lire. Après, il y a d'autres ouvrages plus spécialisés dans mon sujet. J'aime beaucoup celui-là qui s'appelle Playing with the Past. Donc pour les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo et à l'histoire, c'est très bien. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. On va continuer avec Antonin. Antonin, tu as travaillé en tant que game designer pour Asobo Studio notamment, et en même temps, tu as été professeur à Lizard avant de devenir consultant game design et game studies pour eux. Tu travailles donc à Lizard depuis quasiment 9 ans, si je ne fais erreur.
Oui, c'est ça, depuis 2007-2008. Oui.
Alors, en 9 ans, est-ce que tu as perçu de grandes évolutions dans la façon d'enseigner le game design?
Oui.
Ah, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, oui, peut-être sur les grands mouvements ces 10 dernières années?
Grands mouvements, ça serait un petit petit peu difficile. Non, mais juste ce qu'on peut constater. Donc moi, je suis rentré en fait à Isart en tant qu'étudiant en 2006. Mm-hmm. Donc à une époque où il a suffi que je frappe à la porte et puis bon, voilà, j'étais pris à Isart. Hein, c'est-à-dire que, en sachant qu'aujourd'hui, par contre, on a, bon, je ne vais pas trahir des secrets des dieux, mais des centaines et des centaines de candidats chaque année. Donc c'est plus tout le même rapport. À une époque où, quand moi je suis rentré à Isart, c'était une formation qui était ouverte uniquement à des étudiants qui avaient déjà un bac plus 2. Donc ça impliquait d'avoir un parcours universitaire qui faisait qu'on venait tous avec un petit background culturel chacun. C'est vrai qu'après, effectivement, il y a un basculement qui a été évoqué, qui fait que ces formations sont devenues toutes plus ou moins post-bac. Donc à ce moment-là, déjà, ça a changé pas mal de choses dans la façon d'appréhender l'enseignement. Parce qu'on s'est retrouvé avec des étudiants qui, sans vouloir leur faire offense, avaient parfois une culture, on va dire, limitée à ce que j'appelle, moi, la culture Big Bang Theory, hein, c'est-à-dire les références geeks auto-centrées. Et donc, c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'ai pu tirer mon épingle du jeu, entre guillemets, et on m'a confié l'enseignement, entre guillemets, de la culture générale, alors ce qui est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, mais disons, avec l'objectif, effectivement, d'ouvrir, on va dire, le champ de perception, d'investigation, de connaissance du médium. Ce qu'on a pu voir, c'est que, dans moi, ce que j'ai pu constater en 9 ans, finalement, c'est une forme de professionnalisation. C'est-à-dire que moi, quand je travaillais en tant qu'étudiant, tout était très empirique. On avait effectivement de vagues contraintes qui étaient données, une thématique, et puis un outil. Alors moi, j'ai travaillé sur VirTools, ce qui était une horreur absolue. Et puis, on faisait notre projet avec ça, et puis bon, on était suivis par des formateurs qui nous encadraient plus ou moins. Voilà. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup, beaucoup plus encadré, professionnalisé, avec des processus qui sont totalement identiques à ceux qu'on peut retrouver dans l'industrie du jeu vidéo, avec des corps de métier qui travaillent et qui collaborent entre eux. Voilà. Typiquement, moi, je co-encadre un travail de visual novel, qui est le genre dans lequel moi, je me suis spécialisé depuis plusieurs années, et qui met en collaboration des game designers, des game art, des sound designers, avec à chaque fois des directeurs pédagogiques, donc avec un directeur créatif qui est au-dessus. Enfin, donc voilà, on est vraiment avec un producteur dans une configuration de professionnalisation qui a dépassé totalement le stade, je dirais, empirique que je pouvais découvrir moi quand j'étais étudiant, et puis avec beaucoup, entre guillemets, de recettes de cuisine qui ont été théorisées, qui nous viennent de l'expérience des formateurs. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent d'Ubisoft, notamment la théorie des 3C, par exemple, qui est un petit peu la base fondamentale de l'école d'Ubisoft, c'est-à-dire ce qui permet de définir la caméra, le personnage jouable, les contrôles. Voilà, c'est qui est d'ailleurs une approche qui oriente la façon de faire du jeu vidéo. Parce que mm-hmm. quand on commence à travailler sur les 3C, on voit bien que ce qui est important à ce moment-là, c'est le contrôle immédiat du personnage, c'est l'avatar, c'est les mécaniques dans ce qu'elles ont de plus immédiates, alors que par exemple la tradition française du jeu vidéo, notamment dans les années 80, était beaucoup plus littéraire, et on essayait de traduire en mécanique
l'histoire
qu'on voulait raconter, avec des situations absurdes où on crée une feature unique pour raconter un passage unique, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on interdit à nos étudiants. C'est-à-dire que si on crée une feature, il faut qu'elle soit réutilisée. Il faut que ce soit un investissement qui ait du sens.
On peut penser, alors si on parle de l'école française, on peut penser évidemment au premier Rayman qui te balance des types d'ennemis qu'on voit extrêmement rarement, bêtement pour un niveau, pour un passage d'un niveau, simplement parce qu'on a besoin d'un truc qui te fasse rebondir dans l'autre sens.
Voilà, donc on essaye d'optimiser au maximum et de se confronter aux logiques du marché avec bien évidemment après tout ce qui est prise en considération de l'évolution des free-to-play, des jeux sur tablette, de la VR, voilà, tous ces éléments-là qui, évidemment, évolue très vite et auquel il faut être en permanence en capacité de s'adapter parce que bon, on est face à une industrie qui est en permanente évolution et mutation.
Alors Mélissa, pour devenir game designer, donc tu as suivi une formation, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apprenne et que tu as peut-être découvert sur le tard au moment de ton premier boulot dans le domaine? Qu'est-ce qui est généralement justement... À côté de quoi passe ce genre de formation ?
Alors justement, je vais rejoindre Antonin sur ce qu'il vient d'évoquer à propos de la professionnalisation de ces formations-là. Mm-hmm. Donc moi, j'ai pas vécu les premiers jets, les premières formations qui ont pu exister là-dedans. Moi, finalement, j'ai eu mon diplôme il y a pas longtemps, donc c'est assez récent.
Milieu des années 2010.
Non. Non, ça remonte à il y a un an et demi. C'est tout récent. Ouais.
C'est plus ou moins le milieu des années 2010.
C'est à peu près 2010. Ouais, on va dire quand même. Donc c'est vrai qu'on est passé par des processus d'apprentissage, les 3C typiquement, la construction d'un free-to-play, quels sont les layers de cette construction-là,
comment faire de l'argent.
Mais ça reste très intéressant d'un point de vue processus, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est vraiment très intéressant. Mm-hmm. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose où on est passé à côté de ça. Et de la même manière, à l'aide de tous ces workshops et de ces travaux en équipe, on a vraiment eu l'occasion en fait, de se mettre dans une espèce de simulation réelle. Donc finalement, j'ai pas eu tant de surprises ça une fois que je suis rentrée dans l'industrie, ce qui est plutôt une bonne chose finalement.
Oui.
Ce que je pourrais dire peut-être, puis finalement c'est assez léger, la chose qui m'a surprise c'est vraiment le vocabulaire interne. Donc vous pouvez apprendre tout le vocabulaire technique que vous voulez sur le jeu vidéo, vous entrez dans une société ou dans un studio qui ait 10 personnes ou qui en ait 300, ils auront leur propre vocabulaire et c'est vraiment du charabia. Donc au début il faut vraiment s'adapter, essayer de comprendre et voilà, mais bon après le temps fait les choses et puis on s'adapte et voilà. Mais récemment là, le studio dans lequel je travaille, je me rappelle d'un meeting à propos d'un tutoriel où on a commencé à discuter, on avait tous un terme différent pour parler exactement de la même chose et c'est parti dans tous les sens et au final on avait tous le sourcil levé à parler exactement de la même chose et à pas réussir à se comprendre jusqu'à ce qu'on rigole un bon coup et puis qu'on dise mais...
Tu parlais d'un didacticiel en fait, c'est ça?
Ah oui, je crois que c'est ça, je suis pas sûr.
L'Académie française est pas loin, faut faire gaffe. Mais la même ville. Mais la question que je vais poser pour le coup, c'est que l'industrie du jeu vidéo est plus ou moins connue, notamment pour les périodes de crunch qui peuvent être assez demandeuses, on va dire, aux gens qui travaillent dans les entreprises, dans les studios. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans les formations, que ça va être difficile, qu'il va y avoir des périodes en fin de développement qui vont être drainantes?
Alors, c'est peut-être pas aussi spécifique, on nous dit pas voilà, à la fin d'une production il y a souvent une période de crunch,
ça va
se passer comme ça, ne faites pas du jeu vidéo, vous allez être fatigué. Ils nous disent, dès le début de la formation, en tout cas pour ma part en tant qu'étudiante ça a été clair dès le départ, on nous a dit voilà, vous êtes tant, il y a tant de places, il y a beaucoup de monde qui veut ses places, il y en a tant qui vont pas y arriver, il y en a tant qui vont y arriver, ceux qui vont y arriver ils vont galérer.
C'est comme en médecine en fait, clair. Vous allez voir du sang.
C'était un petit peu ça.
J'exagère un petit
mais
peu.
C'était clair.
Enfin, moi, Antonin, le crunch, il est expérimenté directement dans les travaux qui sont demandés dans l'école.
Tout à fait.
Les étudiants travaillent, les locaux sont souvent ouverts très tard le soir et ils travaillent autant qu'ils peuvent. Après, voilà, il faut bien avoir conscience qu'un jeu vidéo, par définition, ça n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment où on dit on pose le stylo. Quoi.
Surtout depuis l'avènement d'Internet.
Là, ça y est, on s'arrête parce qu'on ne peut plus faire autrement. Mais concrètement, on peut toujours l'améliorer. On peut toujours aller plus loin. Donc, quand on a des gens qui sont motivés, et notamment les étudiants, effectivement, face à un univers impitoyable, à un bassin d'emploi qui, mine de rien, a perdu de son dynamisme ces dernières années, même si ça va un petit peu mieux que depuis la crise de l'an 2000. Donc il expérimente déjà aujourd'hui dans les écoles. Et puis après, il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de formations qui proposent, notamment ISAR, de l'alternance, ce qui est extrêmement important. Et que là aussi, on est confronté à cette réalité très, très rapidement.
Oui, effectivement. Une dernière réaction de Mélissa, peut-être ?
Non, tout à fait.
Ok, tu acquiesçais.
J'acquiesce.
Fantastique. Je vais poser la question maintenant à Edwige. En regardant les différents intitulés de cours, je me suis rendu compte que le terme multimédia revenait extrêmement régulièrement. Pourtant, le terme sonne aujourd'hui très passage à l'an 2000, très CD-ROM interactif. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'usage d'un terme aussi vieillot ?
Alors, ça a été utilisé justement parce que c'est un terme super connu du grand public. Bon, après, l'avantage aussi du terme multimédia par rapport aux jeux vidéo, c'est que c'est beaucoup plus large. Multimédia, ça va comprendre aussi tout ce qui est site web, installation interactive, etc. Et comme l'évoquait Antonin, c'est le problème du débouché dans le domaine du jeu vidéo. Il y a énormément d'étudiants, il n'y a pas tant de place que ça. Et du coup, il y a un certain nombre de formations qui sont un peu plus polyvalentes pour permettre aux étudiants qui ne trouvent pas de boulot dans le jeu vidéo d'avoir une place ailleurs, en fait. Et donc ça, c'est un enjeu. Mais c'est vrai que moi, j'enseigne dans un DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Mm-hmm. Avant, on s'appelait services et réseaux de communication. Depuis qu'on a changé de nom, donc il y en a partout dans toute la France, des MMI, On a beaucoup, beaucoup plus de candidats. C'est affreux. Les étudiants, visiblement, voient le terme multimédia. Ils cliquent dans APB et après, on se retrouve avec 2200 dossiers à classer. Et c'est très drôle. Voilà.
Bon. Bien. Il faut du courage pour ça, effectivement. Mais je crois aussi, peut-être simplement que ça rentre du coup dans une case spécifique dans les moteurs de recherche, mais peut-être dans les sites qui classifient les différents types de formations et que du coup, ça trouve son public. Peut-être aussi un peu de ça. Qui sait, on leur demandera si jamais on leur met le grappin dessus. Toujours est-il, Guilin, à l'IUT de Montreuil, tu enseignes un module de conception et de programmation de jeux vidéo. Dans quel cursus est-ce qu'on retrouve ce module de conception et de programmation de jeux vidéo ? Dans quel cadre est-ce que c'est enseigné ?
Alors, par définition, c'est typiquement le genre de module ou d'option qu'on peut retrouver dans des formations d'informatique et de développement informatique. Donc, c'est une option que j'ai mise en place à la demande de mes collègues au sein du DUT informatique à Montreuil, mais qui était déjà enseignée par d'autres collègues au sein de la licence d'informatique de l'Université de La Rochelle quand j'ai fait ma thèse. Et on retrouve des équivalents, avec des intitulés un peu différents, dans beaucoup de formations d'informatique, qu'elles soient au niveau licence ou au niveau master. Parce que pour quelqu'un qui fait de la programmation informatique, le jeu vidéo, d'une part, souvent, ça fait rêver, donc ça attire beaucoup les étudiants. Mais en plus, c'est un exercice de programmation particulièrement riche et complet, parce qu'on doit gérer tout un tas d'aspects de la programmation, donc sans trop rentrer dans les détails, mais tout ce qui est objet, gestion d'événements, programmation avec des contraintes de temps réel, de fluidité, qui font que c'est vraiment un exercice très formateur pour les étudiants.
Quoi qu'il en soit, on leur conseille de faire ça simplement parce que ça ça leur permet de développer des capacités, peu importe leur métier de débouché au final.
Alors oui, voilà, c'est de toute manière, on n'a pas besoin de leur conseiller de faire ça parce qu'en général, dès qu'on ouvre une ce genre-là, il y a du monde qui vient. Point. Il n'y a pas besoin de conseils. Le public suit aussi, et c'est ce qui fait qu'on ouvre des options de ce genre-là.
Félicitations.
Mais le fait est que oui. Pédagogiquement parlant, de toute manière, c'est très formateur parce qu'ils y apprennent des choses qui vont forcément leur resservir dans d'autres contextes.
Ouais. On a exactement la même analyse en DUT MMI. On a des cours de programmation pour le web, plus traditionnels pour des applis mobiles. Et c'est clair que le jeu vidéo, c'est ce que les étudiants trouvent très motivant tout de suite. Et donc, c'est un bon, on dirait, produit d'appel, hein, soyons marketing, pour faire programmer les étudiants, très clairement.
Très bien. Mélissa, maintenant, je vais te poser une autre question, alors qui est reliée à une autre de tes activités, entre guillemets, puisque tu t'occupes directement de la section game d'un institut, le SAE Institut à Genève, en Suisse. Quelles sont les qualités pour faire un bon enseignant en game design de nos jours ? Est-ce que c'est difficile de trouver un établissement où travailler ?
Alors, je précise tout d'abord que je m'occupe de la coordination. Donc, je travaille en duo, en fait, avec mon collègue Luca Giarrizzo, qui lui gère la formation. Moi, je l'aide à la coordonner.
D'accord.
Donc, je suis un petit peu derrière. Et puis,
mais justement, tu le surveilles.
Je l'aide à tirer les...
Tu es plus objective. J'ai tenté une justification pour ma question.
Ouais. Mais c'est pas trop mal. Ce que je dirais, bon, du haut de ma très... De ma très haute expérience de l'enseignement du GD, en tout cas de ce que je peux en voir là tout de suite avec un regard externe, puisque j'ai commencé en fait en tant que coordinatrice depuis début avril, donc j'ai rejoint l'école en janvier, donc c'est vraiment très très récent. Ce que je pourrais dire, en fait, finalement, ça rejoint un petit peu tous les intervenants professionnels qui vont venir donner des cours, c'est que il faut avoir la pédagogie ou en tout cas l'apprendre. Il faut être capable d'expliquer des concepts complexe de façon simple et de pouvoir les transmettre facilement. Donc après, voilà, je pense que c'est assez global et ça rejoint tout le corps enseignant, en fait, tout l'enseignement.
Alors, je prêche pas du tout pour ma crèmerie ou ma corporation ou quoi que ce soit, mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que certains journalistes jeux vidéo pourraient avoir un débouché là-dedans ? Parce qu'on en voit certains partir dans des studios, conseiller des studios, même travailler, créer leurs jeux, etc. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce qu'il y a même des exemples de cas où des journalistes de jeux vidéo se seraient reconvertis dans le game design, dans l'apprentissage pour le coup du game design ou pas du tout ? Je la pose la question à tout le panel si jamais l'un d'entre vous.
J'ai pas le recul, mais
aurait,
Antonin sûrement.
Non, mais je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de professionnels qui sont aptes à venir donner des cours dans les écoles spécialisées que finalement, oui, il peut y avoir des opportunités. Je ne vais pas dire que c'est impossible. Moi, typiquement, je travaille avec Guillaume d'Horizon en duo qui lui est scénariste et il est sur des mangas et il intervient aussi sur l'organisation de festivals e-sport. On a réussi, on travaille donc en binôme sur l'encadrement des visual novels, puisque moi j'ai plutôt l'approche GD, lui il a plutôt l'approche, on va dire, scénario. Donc ouais, il y a des opportunités qui peuvent se faire selon des contacts, bouche à oreille. On a aussi, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'humains finalement qui rentrent en considération. Mais aujourd'hui, on a quand même énormément de gens extrêmement expérimentés, extrêmement compétents, qui sont disponibles. Parfois, malgré eux, il faut aussi avoir ça en considération. Ce qui est plus complexe, je dirais, s'il y a peut-être un élément à prendre en considération dans l'enseignement dans ces écoles spécialisées, ça c'est une problématique que je connais bien, c'est le phénomène un petit peu de mercenaires. C'est-à-dire le fait qu'on ait des professeurs parfois qui sont là parce que bon, mais ils sont plus en prod, ils sont plus dans leur studio, donc ce qui est important pour les écoles, c'est qu'ils arrivent quand même à fidéliser, c'est fondamental, des professeurs, des responsables pédagogiques qui vont être là en place longtemps pour structurer des programmes, pour structurer une vision globale, des objectifs à atteindre.
Et suivre les étudiants sur plus qu'un semestre.
Voilà, et suivre les étudiants sur plusieurs années, parce que sinon on se retrouve, mais c'est parfois l'un des défauts qu'on peut avoir dans certaines écoles, avec des intervenants qui sont très compétents, mais qui vont être là 2 ou 3 jours dans l'année, et puis qu'on ne verra plus jamais. Donc c'est cette alchimie-là qu'il faut arriver à bien maîtriser, tout en sachant que les responsables pédagogiques qui vont être après en place, le risque, c'est qu'ils ne soient plus forcément complètement au courant de ce qui se passe dans les studios. Donc il faut être très alerte. C'est pour ça qu'il y a des cellules de veille très importantes au sein de l'école, auxquelles moi je participe énormément, à faire de la veille scientifique pour arriver à voir comment les choses évoluent.
Quel est le state of the art dans les différents studios.
Pour être tout le temps en auto-formation, pour arriver à la fois rester coordinateur, responsable pédagogique, mais ne pas être complètement à la ramasse par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans la réalité de l'industrie.
Et cette manière-là de s'informer sur ce qui se passe, c'est plutôt informel ou au contraire ça passe directement par les têtes de studio, etc. Comment ça se passe?
Chacun sa méthode, mais oui, ça passe par l'état de l'art, donc la lecture de tout ce qui est dit sur Gamma Sutra ou de toutes les publications universitaires me concernant. Oui,
je précise quand même pour les spectateurs et les auditeurs qui ne connaîtraient pas le site internet Gamma Sutra que ce n'est pas quelque chose d'interdit aux mineurs. C'est un des rares sites internet vraiment dirigé envers les professionnels du jeu vidéo qui a à la fois une partie d'actualité et également énormément de blogs qui sont tenus par des gens de l'industrie et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des post-mortems, c'est-à-dire des billets qui expliquent comment un jeu s'est fait et qui permettent d'avoir en fait une perspective différente qui est typiquement celle des gens qui font le jeu vidéo ou qui gravitent autour de l'industrie.
Oui, puis c'est la réflexion en temps réel, c'est effectivement des billets sur ce qui est des productions en cours, voilà. Donc ça c'est très important, puis après ça fait aussi partie les relations qu'on peut avoir autour de nous et c'est de se tenir en courant. Moi il y a quelque chose qui m'aide pas mal, parce que ça fait maintenant 9 ans que je suis dans le métier, c'est que j'ai un réseau de petites souris qui s'est épanoui, c'est-à-dire tous mes étudiants, tous mes anciens étudiants avec qui je suis en contact privilégié via les réseaux sociaux notamment, avec qui je mène mes enquêtes régulièrement pour savoir quels sont les process, comment ça se passe, comment ils travaillent, et ça me permet de me tenir aussi beaucoup au courant de comment les choses évoluent dans ces studios-là.
L'avant-dernière question est pour Guilin, toujours pour l'IUT de Montreuil. Tu t'occupes d'un enseignement sur le Serious Game pour la communication d'entreprise. Est-ce que le Serious Game, donc, qui est effectivement plus dirigé envers les entreprises et sociétés qui n'ont pas forcément envie de faire à la base quelque chose de ludique, est-ce que c'est plus facile à faire entrer dans le cadre universitaire parce que ça a un but qui dépasse le simple divertissement ?
Alors, au niveau de l'enseignement et de la mise en place d'unités d'enseignement, on va dire, le jeu vidéo ou le serious game, ça s'inscrit aussi facilement parce qu'on reste à discuter entre membres d'équipe pédagogique et que les collègues comprennent très bien l'intérêt de l'un ou de l'autre. Juste donc pour resituer, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, absolument, les serious game, ce sont des jeux qui sont conçus pas simplement pour apporter un divertissement ludique aux joueurs, mais aussi pour remplir un intérêt autre, qui est souvent la transmission d'un message pédagogique, éducatif, parfois promotionnel, ou alors pour obtenir des résultats résultats de recherche ou observation de comportement de joueurs.
On a vu de nombreux médias notamment faire des espèces de petits serious games sur le web, notamment en lien avec l'élection présidentielle pour expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a derrière, que ce soit de formation du gouvernement, de tenue d'une campagne, etc., etc.
Voilà, donc ce sont des jeux qu'on dit sérieux parce qu'ils sont censés remplir un objectif supplémentaire. Et donc, en termes de mise en place d'une unité d'enseignement dans une formation, ça va, on est entre collègues et les discussions sont toujours assez faciles. Par contre, quand on veut mettre en place des formations complètes ou quand on veut mettre en place des projets de recherche, il est clair que par rapport aux financeurs institutionnels, commencer à dire « oui, j'ai envie de lancer un projet à plusieurs centaines de milliers d'euros pour pendant 3 ans travailler sur de la recherche en jeux vidéo », ça ne fait pas sérieux. Alors que si on propose le même contenu scientifique, mais dans le cadre d'un projet avec application Serious Game et avec des débouchés éducatifs pédagogiques, bah forcément, ça va beaucoup plus intéresser les décisionnaires au-dessus.
Très bien. Non, si tu n'as rien à ajouter.
Je
vois pas,
enfin, je peux toujours développer, mais on va juste prendre du temps pour redire la même chose.
On va laisser du temps pour nos amis dans le public. Mais avant cela, j'ai une dernière question à vous poser toutes et tous. Une question tour de table, donc. Dans quelle direction, selon vous, l'enseignement du jeu vidéo va-t-il aller, doit-il aller progresser vers plus de spécialisation, vers une présence dans plus d'établissements, vers autre chose encore? On va commencer tout au fond, si ça ne te dérange pas. Non, Mélissa, tu veux le temps de la réflexion encore?
Alors, c'est une excellente question. J'imagine que d'un point de vue spécialisation, s'il y a quelque chose que j'ai pu remarquer, et déjà quand j'étais étudiante, c'était qu'il y avait un grand manque de personnes spécialisées dans la programmation jeux vidéo, programmation orientée objet et de spécialistes, en fait, vraiment, qui travaillent que là-dessus. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue formation, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes, elles sont très très rares comparées au nombre de formations qu'on peut trouver sur le game design et sur le game art de manière générale. Donc j'imagine que d'un point de vue spécialisation, oui, il y aurait potentiellement quelque chose à faire de ce côté-là. Après, bon.
Très bien. Antonin ?
Alors c'est un débat qu'on a régulièrement au sein de mon école, comment faire évoluer la pédagogie pour la rendre la plus adaptée possible à la réalité de l'industrie, parce que le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte que nos étudiants aient un métier à la sortie de l'école. Alors moi, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, du moins pour ma vision des choses, en tout cas. Effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés, qui soient compétents le plus rapidement possible pour être facilement intégrés dans une équipe, dans un studio, et qui puissent travailler tout de suite sans qu'il y ait besoin de formation spécifique. Ce qui fait qu'on essaye de faire des étudiants qui soient le plus multicasquettes possible, voilà, avec des compétences en programmation, en GD, un minimum d'éléments graphiques. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut aussi avoir une formation peut-être plus globale, justement, d'appréhension de qu'est-ce que le game design, qu'est-ce que le jeu, pour arriver à être capable d'évoluer selon les contraintes techniques, les évolutions techniques qui sont inhérentes au développement de l'industrie. Voilà, les gens qui étaient spécialisés dans le développement Flash, mais aujourd'hui, il y en a certains, j'en connais, qui ont perdu leur métier parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter et d'évoluer. Donc voilà, il faut avoir cette alliance-là, hein, c'est effectivement deux compétences spécifiques, mais en même temps avoir ce recul, cette capacité à s'interroger sur ce qui fait la nature même du jeu, pour être capable de... effectivement, alors, il y a des choses qu'on a dit sur le multimédia, mais aussi de pouvoir rebondir dans d'autres domaines d'utilisation du jeu, dans le jeu de société, dans un domaine un petit peu à la mode. On a d'ailleurs un étudiant d'Izart qui a eu une success story dans le domaine, qui est les escape games, hein, qui fleurissent, ou aussi tout ce qui est jeu qu'on retrouve dans de grandes industries, qui c'est de faire la publicité avec, ce genre de choses. Bon, voilà, donc il faut faire en sorte que nos étudiants soient plus capables de s'adapter finalement aux contraintes de l'industrie et des demandes du marché. Et donc voilà, à la fois des éléments techniques, mais aussi bien évidemment des aspects théoriques qui leur permettront de s'adapter plus facilement.
Merci beaucoup. Du côté d'Edvige ?
Oui, alors effectivement, je rebondis sur Mélissa complètement. Le nerf de la guerre, c'est la programmation. Si vous voulez trouver du travail dans le jeu vidéo, faites une formation où il y a de la programmation. Il y a peu de place pour les graphistes. Et alors pour les game designers, les level designers, c'est encore bien pire. Donc clairement, il y a une question claire d'embauche à prendre en compte, qui n'est pas si clair que ça aujourd'hui par rapport à l'offre de formation. Il y a une grosse offre de formation game design graphiste qui est pas si, qui correspond pas si bien que ça au marché actuel. Donc il y a ça. Il y a une autre question, c'est la question public-privé. Actuellement, il y a très peu de formations supérieures gratuites en jeux vidéo, et notamment en programmation de jeux vidéo. Alors il y a des formations généralistes, évidemment, hein, mais dans les formations spécialisées, ça manque. Et ça, c'est un petit peu dommage. J'espère que ça va évoluer. Voilà. Je voudrais en profiter pour donner quelques petits conseils à des éventuels étudiants au futur, et qui sont aussi des conseils pour nous, parce que c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. Il y a quand même une question énorme pour le fait de rentrer dans le milieu du jeu vidéo une fois qu'on a été formé, c'est le réseau de relations. Et donc il faut assez vite et très tôt essayer de rejoindre, il y a des groupes Facebook sur le jeu vidéo, d'aller dessus pour rencontrer des gens, participer aux meetings quand il y en a, participer à des associations également. Et un autre truc qui me semble essentiel, c'est les game jams dont on n'a pas parlé. C'est hyper bien pour développer ses capacités, ses compétences, rencontrer des gens. C'est vraiment une occasion sympa, il y en a tout le temps, partout, que ce soit en présentiel ou à distance. Donc le fait de faire des études, ça ne dispense pas de ça, bien au contraire.
Et enfin Guylain.
Donc, alors d'une part, je vais rebondir sur quelque chose que disait Antonin, qui est qu'effectivement, une formation aux jeux vidéo, c'est pas juste former des gens qui vont travailler pendant 5 ans dans l'industrie et ensuite disparaître dans la nature. Il faut penser qu'on forme les gens pour des carrières qui vont durer une quarantaine, peut-être même une cinquantaine d'années, on ne sait jamais.
Suivant le droit du travail.
Voilà, et que du coup, il ne faut pas simplement former aux outils du moment, mais il faut former aux méthodes de réflexion et d'apprentissage pour s'assurer que les étudiants qu'on va former puissent continuer à évoluer tout au long de leur carrière et ne se retrouvent pas périmés parce qu'on leur a appris le moteur qui est sorti il y a 3 ans, qui sera périmé 3 ans après leur diplôme et qu'après ils seront remplacés par quelqu'un qui sortira d'une école avec un truc plus récent. Et je voudrais aussi reprendre sur ce que disait Mélissa un peu plus tôt, qui est que le milieu du jeu vidéo et de la formation en jeu vidéo actuellement, c'est beaucoup d'étudiants motivés, peu de postes à la fin. Notamment en France, il y a un gros employeur et plusieurs studios de petite ou moyenne taille, mais ce n'est pas un énorme vivier pour absorber tous les étudiants qui veulent faire du jeu vidéo. Et que du coup, il est important, à mon sens, que les formations en jeux vidéo soient faites de manière à ce que les étudiants puissent rebondir vers d'autres champs professionnels. Donc au niveau de la programmation, la programmation de jeux vidéo, ça permet aussi de pouvoir ensuite rentrer simplement dans une SS2I et de faire de la programmation dans d'autres domaines. Au niveau des aspects artistiques, ça peut éventuellement permettre de travailler dans le graphisme, la communication visuelle, l'animation, sur des applications qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Et pareil, le game design, il y a des éléments, parce que le game design, il y a aussi beaucoup de mathématiques, il y a de l'économie appliquée, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir valoriser de manière à ce qu'un étudiant qui ne réussisse pas à intégrer l'entreprise qui lui plaise à la sortie du diplôme puisse quand même faire quelque chose d'intéressant avec ce qu'il a appris et pas juste à faire un choix de carrière par défaut. Et je pense que là-dessus, il y a un véritable enjeu au niveau des formations de réussir à valoriser cet aspect-là du « on vous prépare à un métier, mais on sait que ça va être dur à l'arrivée et que du coup, il faut qu'on s'assure que vous ayez quand même un parachute, une porte de secours pour que vous ne vous disiez pas 10 ans après « si j'avais su, j'aurais fait autre chose ».
Merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a dans le public une question pour notre panel? Levez la main si c'est le cas. J'en vois un. Très bien, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va prendre monsieur et puis ensuite on rendra l'antenne.
J'en profite juste pour ajouter un tout petit détail pour rebondir sur le fait qu'effectivement le bassin d'emploi français n'est pas forcément capable de tout absorber. Il y a un point fondamental à maîtriser, c'est l'anglais.
Oui, oui, absolument. Mais ça, dans ce domaine-là, dans l'informatique, dans le développement en général.
C'est pour être capable, effectivement. Il y a Montréal qui permet de s'en sortir quand on est francophone, mais bon, l'anglais.
Et puis oui et non, parce que techniquement, tu es entouré ensuite géographiquement par une terre anglophone qui, en plus, a un accent tout à fait charmant. Eh bien, voilà, quelqu'un a récupéré le micro sans fil. Bonjour. Peux-tu parler dans le micro, s'il te plaît?
Oui. Ah, vous m'entendez?
Est-ce qu'il est ouvert? Vas-y. Colle-le.
Oui. Donc je voulais m'adresser aux universitaires, me demander est-ce qu'aujourd'hui des étudiants sont amenés à réaliser des thèses spécialement dans le jeu vidéo? Et aussi une autre question, est-ce que les universitaires sont amenés à travailler avec les studios de jeux vidéo? Est-ce qu'il y a une interaction entre vous et le monde professionnel?
Oui et oui.
Oui, dans les deux cas. D'ailleurs, nous avons fait, je crois, tous les deux nos thèses sur des sujets liés aux jeux vidéo, ouais. À la base. C'est quand même comme ça qu'on est rentré dedans, on va dire. Mmh. Et au niveau des coopérations, il y en a... Alors, d'une part, il y a des coopérations pures et dures, notamment ce qu'on appelle les thèses chiffres, qui sont des thèses faites en entreprise, enfin, à moitié en entreprise, à moitié dans un laboratoire universitaire. Il y a notamment... des doctorants qui sont du coup associés à certains studios français et qui font donc leur thèse à 50-50. Et puis après, il y a des projets de coopération qui se montent, parce que maintenant les grands projets de recherche en France et en Europe doivent être des associations publiques privées. Et donc, il y a des associations avec des studios, alors pas forcément les plus connus, parce qu'eux ont leur propre calendrier, leur propre agenda, et que si on arrive en leur disant, écoutez, on va commencer à discuter, on va rédiger un rapport pour avoir un financement dans un an et demi, et puis après on va passer 3 ans à bosser avant d'avoir un truc qui ne sera pas encore commercialisable, ils vont nous dire, ok, c'est bon, nous on a un jeu à sortir avant la fin de l'année. Mais d'autres établissements moins connus, mais qui vont quand même avoir intérêt à travailler avec nous, qui vont trouver les travaux universitaires intéressants, qui vont vouloir les valoriser.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi j'ai aussi fait ma thèse sur les jeux vidéo, les jeux de rôle en ligne en l'occurrence. C'était un petit peu le début, mais sans être les toutes premières thèses clairement identifiées jeux vidéo. Après, on travaille évidemment avec des professionnels, donc... comme tu le disais, soit via l'état chiffre, ça peut être avec, à travers des échanges vis-à-vis de nos étudiants, hein, aussi en stage beaucoup, les projets de recherche, et après on étudie des jeux vidéo. Donc à partir du moment où on étudie des jeux vidéo, parfois on en crée aussi, hein, donc là effectivement en partenariat, mais par exemple un des jeux sur lequel j'ai travaillé récemment, c'est un vieux jeu, il s'appelle Versailles 1685, j'ai travaillé en recherche, création et en politique, donc j'ai essayé d'étudier le processus de création de ce jeu, donc j'avais en fait interviewé les auteurs. Donc ça, c'est des choses qu'on fait hyper souvent, enfin, moi en tout cas, vu mon approche, c'est assez clair, mais on a des rencontres très couramment où il y a à la fois des professionnels et des universitaires. Par exemple, à l'Indiecade, qui était un festival qui a été organisé au CNAM cette année pour les jeux indépendants, vous aviez à la fois des ateliers avec des pros, donc là, des pros indés, et des chercheurs, et des choses qui se faisaient ensemble.
Très bien, merci à toutes, merci à tous, merci à mes 4 invités aujourd'hui, Edwige Lelièvre, Guylain Delmas, Mélissa Klaus et Antonin Congy. On retrouve tous les renseignements pour vous contacter, notamment sur Twitter, sur la page de l'émission sur radiokawa.com. Je tiens à remercier pour ces 3 conférences, le Festival Geek & Games, sa première édition, pour véritablement une édition où on a été reçus comme des princes, c'était merveilleux, on a hâte de le refaire l'an prochain, en tout cas je l'espère si c'est possible. Merci particulièrement à Véronique, à Juliette, à Ilias et à Alex, également à l'association AEIP6 et à l'université Pierre et Marie Curie. J'aimerais remercier à la technique évidemment Monique, et j'aimerais remercier également Aspic pour toute leur aide, ainsi que Michael qui nous a filé quelques coups de main. Merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui, merci à vous qui nous avez écoutés en direct. Également, toutes les tables rondes qui ont eu lieu ici seront disponibles à peu près en milieu de semaine sur radiokawa.com en replay audio. Je ne peux ensuite que vous diriger vers notre Patreon.com/radiokawa pour plus d'initiatives de ce genre, car cela nous permet de financer ce genre de petites activités. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à une prochaine fois. Ciao.
En direct et avec vous, grâce au hashtag Passe le Stick.
Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des vacances.
Pas de faire bien mérité, parce qu'on est rendu. Mais non, mais alors,
s'il vous plaît, ça ne va pas le faire. On ne pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là, au moins, on devrait avoir le temps.
Tout à fait.
Merci Pipo.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire. Alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.